Donc, vous avez remarqué, on en parle souvent en ce moment, combien notre société est un peu en proie à l'anxiété. L'anxiété. Parce qu'elle traverse des changements. Il y a beaucoup de changements qu'on vit et qu'on constate. On parle depuis des années beaucoup de changements climatiques. Et ce sont des choses que l'on voit concrètement. Dernièrement, il y a des gros grêlons là de 5 cm qui sont tombés là juste dans le bassin, juste à côté, à quelques dizaines de kilomètres de Figeac. C'était des choses qu'on n'avait jamais vues là et qui ont fait beaucoup de dégâts. Et puis, on a constaté l'arrivée de la guerre en Europe et puis on nous promet que ça va continuer, que ça va aller encore de l'avant. Pas de perspective de paix durable à l'horizon. Et puis il y a le big data qui est arrivé avec son intelligence artificielle qui va prétendre remplacer nous autres humains, notre tête et notre et beaucoup de travail qui nécessitait de l'intelligence qui pourra être remplacé par des machines. Et puis il y a tous ces mouvements de population que permet notre monde, notre société, et qui sont inquiétants. Et tout cela s'accompagne en plus d'une perte de repères éthiques, des fractures sociales. Il manque les liens de notre société judéo-chrétienne qui s'en vont, qui disparaissent, qu'on veut les pousser sous le tapis. Et tout ça est bien inquiétant. Tous ces changements. Mais je voudrais vous parler de quelque chose qui a bouleversé le monde entier il y a 2000 ans. Jésus n'est pas venu apporter des changements, il est venu apporter des bouleversements radicaux. Et c'était pas une petite chose quand il a commencé à visiter son pays, la Palestine. Mais cela s'est fait sans bouleversement éthique, contrairement à bien des révolutions que les hommes ont mis en place. Pas de bouleversement, pas de changement notable en ce qui concerne la morale, en ce qui concerne la religion. Une parfaite continuité. Aujourd'hui encore, ce bouleversement n'est pas fini. Il touche des milliers de personnes, même en France. Ils vivent un bouleversement à l'intérieur de leur vie, à cause de Jésus. Alors, comment cela est-il possible? Est-ce que je suis à l'abri d'être bouleversé? Non pas par le changement climatique, mais par une personne. Jésus-Christ. Est-ce que ce bouleversement est souhaitable pour moi? Est-ce que c'est souhaitable pour notre société également? Alors le titre du message de ce matin, c'est « Jésus-Christ bouleverse tout ». Jésus-Christ bouleverse tout, sauf la loi. Il bouleverse tout et nous. Est-ce qu'il nous bouleverse? Je vais lire l'évangile de Luc, donc au chapitre 16, la suite il y a 2 semaines. Chapitre 16, verset 14. Les pharisiens, amis de l'argent, écoutaient tout cela, tout ce qu'a enseigné Jésus. Je vais en toucher un mot un petit peu plus tard. Et ils tournaient Jésus en dérision, ils se moquaient de lui. Il leur dit, « Vous, vous vous faites passer juste devant les gens, mais Dieu connaît votre cœur, car ce qui est élevé aux yeux des gens est une abomination devant Dieu. Jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Depuis, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle. Chacun use de violence pour y entrer. Or, il est plus facile pour le ciel et la terre de passer que pour un seul trait de lettre de la loi de tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère. Celui qui épouse une femme répudiée par son mari commet l'adultère. On va s'arrêter là. Ensuite, il y a une parabole bien connue avec laquelle Jésus va poursuivre. Jésus a tout bouleversé. Si on se remet dans le contexte de l'époque, on resitue ce texte dans son contexte, dans le contexte de la venue de Jésus-Christ. On peut le faire en parcourant rapidement l'évangile depuis le début. Alors c'est l'avantage d'avoir une Bible en papier, c'est qu'on peut le faire facilement. Il y a sa naissance qui était annoncée, promise, une naissance surnaturelle, puisque Marie n'avait pas connu d'homme quand elle est tombée enceinte. Quelque chose de bouleversant. Et puis la façon dont il est né, les anges qui ont chanté et qui étaient là pour glorifier Dieu à ce moment-là. Jésus était, chapitre 2, Jésus était également un enfant prodige qui surprenait les plus experts spécialistes de la loi par son intelligence, ce qui concernait la parole de Dieu. Ensuite, on voit l'arrivée de Jean-Baptiste et les foules qui vont à lui dans un désert pour se repentir. Il prêche le baptême de repentance et des foules vont à lui. Chapitre 4. Jésus qui déclare qu'il est le Messie, qui est entendu. Quelque chose de surprenant, d'incroyable. Tout le monde attendait ce moment-là, mais personne n'en croyait ses oreilles. Jusqu'à vouloir, à ce moment-là, chasser Jésus-Christ dehors. Verset 5. Une pêche miraculeuse, des guérisons, guérisons de lépreux, guérisons de personnes qui étaient paralytiques et qui étaient handicapées. Et c'est le sujet des Jeux Olympiques en ce moment. Guérison de toutes ces personnes qui sont là handicapées. Mais comment cela est-ce possible? Jésus-Christ apportait tout cela avec lui. Il était également, au chapitre 6, le maître du sabbat, supérieur à la loi même de Moïse. Il se présentait ainsi. Et il faisait de nombreuses guérisons et il enseignait les foules également, avec une parole d'autorité, on en a parlé tout à l'heure dans l'introduction, Morel nous en a parlé. Et au chapitre 7, Jésus accorde même non seulement la guérison, mais il accorde le pardon. Il accorde le pardon des péchés. Le chapitre 8, le bouleversement social également. On voit qu'il y a des femmes qui l'accompagnent et il a apporté un bouleversement dans la société en ce qui concerne la position des femmes par rapport aux hommes. Il les a mis à l'honneur. Il les a, on dirait aujourd'hui qu'il les a libérées. Et il a également bouleversé les carcans familiales. Chapitre 8, il apaise une tempête, il chasse des démons, il ressuscite des morts. Et au chapitre 9, il communique même cela à ses disciples, qui vont pouvoir faire comme lui, il envoie les 12 en mission. Il donne également à manger aux foules, il est capable de multiplier le pain pour voir à tous les besoins à lui tout seul. Au chapitre 10, il met à l'honneur les humbles, les enfants. Il ne promet pas un avenir meilleur, mais des souffrances pour ceux qui le suivent. Le contraire de tout homme politique qui veut avoir du succès. Il promet des souffrances pour ceux qui le suivent. Il n'a pas peur, au vers chapitre 11, de dénoncer les péchés qui sont cachés avec tout cet établissement qui est là, les pharisiens. Il n'hésite pas à leur dire malheur à vous, malheur à vous. Et il dénonce toutes ces choses, toutes ces fautes, eux qui veulent paraître devant les hommes, tous les problèmes qu'ils ont au fond de leur cœur. Au chapitre 12, il parle également de la toute suffisance de Dieu, qui est capable de prendre de chacun de ses soins, de chacun de ses enfants. Il encourage la foi. Au chapitre 13, il prophétise sur son prochaine crucifixion à Jérusalem. Il annonce sa mort. Au chapitre 14, il annonce également l'élévation des humbles et combien il doit être quelque chose qui est exclusif dans la vie de ses disciples. Et le chapitre 15, donc, on trouve la parabole du fils perdu qui révèle l'incompréhensible amour de Dieu pour les perdus. Juste dans notre contexte immédiat ici, il parle de, il renverse l'argent. C'était le message de la dernière fois. Luc chapitre 16, verset 9, juste avant cela. Moi je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice, pour que quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles, ces amis que vous avez fait avec de l'argent. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec le mammon injuste, les richesses, qui vous confiera le bien véritable? Si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartient à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien? Aucun domestique ne peut être esclave de deux maîtres, en effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de Mammon. Et sur ces, c'est sur ces paroles-là que les pharisiens écoutent, qui sont là, ils écoutent cela et ils ricanent et ils se moquent de Jésus. S'être attaqué à l'argent ici est un bouleversement dans cette société qui est trop important. Non, ce n'est pas possible. Et la seule chose de se défendre contre cela, c'est la moquerie, c'est de tourner Jésus au ridicule dans cette pensée que l'argent pourrait être ainsi ramené à moins que rien, eux qui aimaient l'argent et qui faisaient profession de servir Dieu en même temps, cela ne va pas du tout pour eux. Le renversement de l'argent et des systèmes financiers. Ensuite, il y a le renversement des valeurs du monde au verset 15. Vous vous faites passer pour juste devant les gens, mais Dieu connaît vos cœurs. Vous vous faites passer pour juste. Vous vous faites juste aux yeux des gens, littéralement. Et l'ancien pharisien Paul il avait du temps où il ne connaissait pas le Seigneur. Il avait bien des raisons de se vanter de la position qu'il avait. Voici ce qu'on lit dans l'épître aux Philippiens. Voici ce qu'il témoigne. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, dans sa personne humaine, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est ainsi qu'il se voyait, c'est ainsi peut-être que les gens le voyaient, un homme irréprochable quant à la loi. Le paraître aux yeux des autres est quelque chose dans notre société contemporaine qui est poussé au maximum avec, vous le savez, les réseaux sociaux où on projette des images et l'on renvoie des images que l'on choisit de soi, qu'on l'on peut arranger à souhait. L'important est l'image que l'on donne de soi. Et les hommes politiques et notre société, c'est capital. Quelle image je rends de moi? Comment suis-je perçu par les autres? Vous cherchez à paraître juste aux yeux des hommes. Mais là, Jésus ajoute, ce qui est élevé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes fait horreur à Dieu, en quelque sorte. On peut écouter également l'apôtre Paul. Par rapport à son ancien passé de pharisien, la façon de, étant devenu chrétien, la façon dont il voit maintenant qui il était réellement. Et voici ce qu'il dit. Quand il était pharisien, j'étais auparavant un blasphémateur, quelqu'un qui parle mal de Dieu, un persécuteur, j'étais un homme violent. Voilà ce que j'étais réellement en ce temps-là. Un jour, les masques tombent. Un jour, le vrai visage de chacun va apparaître au grand jour, pour le meilleur et pour le pire. Les péchés de certains hommes sont manifestes avant même qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. 1 Timothée 5:24. Et c'est la même chose pour les choses bonnes. On a vu un exemple flagrant il y avait quelques années avec Monsieur Dominique Strauss-Kahn, lorsqu'il avait été pris en flagrant délit de perversion sexuelle dans un hôtel, et cela avait précipité d'un coup d'un seul toute sa carrière politique, lui qui était envisagé comme candidat pour être candidat à l'élection présidentielle. Dernièrement, on a beaucoup parlé de l'abbé Pierre. Les médias avaient fait de lui, de son temps, le personnage favori des pensées, la personnalité préférée des pensées, des Français, pardon. Ce devait être bien malgré lui, je suppose. Ce qui est élevé parmi les hommes est abominable devant Dieu, déclare Jésus. Voici ce qu'ajoute après Philippiens, chapitre 3, après avoir dit qu'il avait été irréprochable à l'égard de la justice de la loi, verset 7, chapitre 3, verset 7. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonce à tout. Toutes ces choses, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé à lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de, qui vient de Dieu par la foi. Verset 16 de notre texte. Ce qui est élevé aux yeux des gens est une abomination devant Dieu, donc. Jésus ajoute, jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Depuis, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle et chacun use de violence pour y rentrer. On a vu le contexte de cette bonne nouvelle, la façon fracassante dont les gens étaient confrontés à ça. J'aurais deux illustrations. On a commémoré dernièrement le débarquement en Normandie, vous savez. Le débarquement, on en parlait. Et les Français étaient là, ok, voilà, de l'autre côté. Jusqu'au jour où le débarquement a réellement eu lieu. Et là, tout à coup, les choses ont changé. Il y a eu tellement de retournements de veste devant ce fait. Tout d'un coup, ben voilà, celui qui était l'occupant et devient celui qui était le vainqueur prend la place du perdant et un autre arrive et tout a été bouleversé pour toutes ces personnes qui vivaient depuis plusieurs années et là en quelques jours c'était différent. Un exemple plus proche également de très nous et très proche même. On a assisté à la dissolution de l'Assemblée nationale il y a quelque temps. Et la redistribution des cartes, nous disent les commentateurs. Tout est différent maintenant. Tout doit être repensé différemment. L'ordre d'avant est changé. Et tout doit être repris à zéro. Je voudrais vous lire l'évangile de Luc. Au chapitre 13, quelques paroles de Jésus avant celle-là. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Et il répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, « Je ne sais pas qui vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé, nous avons bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Une grande confusion de son temps. La fin des maladies, la fin des handicaps, la fin du pouvoir de Satan, la vie facile qui arrive enfin, plus besoin de s'inquiéter du repas. Et tout est là sous nos yeux, mais comment se saisir de ce royaume? Comment faire pour posséder ces choses? Comment faire pour entrer? Une grande confusion, une compétition qui se met là en place. La donne a changé. Que faire? Bien des personnes ont forcé la porte de l'église pour y trouver une source de gain. La piété est une source de gain, croyait-il. L'élévation devant les hommes, l'argent, tout ça reste possible? Non, pas dans l'Église, pas dans le nouveau royaume. Jésus a tout bouleversé, mais il y a une chose qu'il n'a pas bouleversée, c'est la loi. L'Évangile n'a pas effacé la loi. Elle constitue une frontière entre le royaume de Dieu et nous, une frontière impénétrable. Elle reste impénétrable. La merveille, c'est qu'il y a une porte pour passer à travers cette frontière, la porte dont Jésus a parlé. Mais ne nous trompons pas, de l'autre côté de cette porte, dans le royaume de Dieu, c'est la loi. Et les exigences même de la loi dans le royaume de Dieu sont supérieures à ce qu'avait annoncé la loi de Moïse. La loi est immuable. Il est plus facile pour le ciel et la terre de passer que pour un seul trait de lettre de la loi de tomber. On dirait en bon français, une seule virgule ne sera pas effacée de la loi. Les guérisons, les délivrances, les résurrections, le pardon des péchés, tout ça est-il compatible avec la loi de Moïse ? Oui, Jésus n'a pas révolutionné la loi. Bien au contraire, et on en a parlé au début du culte, concernant ce problème si on lit ce passage bien connu du sermon sur la montagne, Jésus a dit au verset 5, chapitre 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera, qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La loi est immuable. Jésus n'a pas révolutionné la loi. Au contraire, il a apporté il a encore plus élevé le niveau de la loi. Et il ajoute, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère. Celui qui épouse une femme répudiée par son mari commet l'adultère. Il prend l'exemple de la loi sur le divorce. Alors, on essaie les 10 commandements, hein. Ça, c'est le 7e des commandements. On peut essayer de se les réviser. Tu ne auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée des choses qui sont spirituelles et tu ne les adoreras pas, tu ne te prosterneras pas, tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu respecteras le jour du sabbat. Et ensuite, il commence avec les lois qui concernent les relations entre les hommes. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est le 5e. Tu ne tueras pas, c'est le 6e. Et le 7e, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas. De tous ces commandements, le seul qui avait des aménagements, c'était ce qui concernait l'adultère. Et donc Dieu, la loi de Moïse permettait des aménagements, qu'il puisse y avoir des séparations dans les mariages, des divorces, que la personne soit renvoyée, une femme soit renvoyée pour que un homme puisse épouser une autre femme. Il y avait des aménagements. Et c'est ce commandement-là que Jésus cite ici. Cet aménagement n'aura pas cours dans le royaume des cieux. Jésus l'a précisé dans le sermon sur la montagne. Dans le sermon sur la montagne. Pas de possibilité de rompre un mariage, sauf si bien sûr l'un des personnes qui est là est lui-même hors la loi. Hein, pas obligation de vivre avec, pour un homme ou une femme, de vivre avec un conjoint hors la loi. Les exigences du royaume de Dieu sont plus élevées que la loi de Moïse. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur, a enseigné Jésus. Impossible de franchir la loi. Et pourtant, le royaume des cieux est là. Comment faire? Il y a une autre image également qui est portée par ces paroles de Jésus, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, comme un adultère. Si on peut voir l'image d'être marié, en quelque sorte, à la loi, d'avoir adhéré à la loi. Ceux qui sont mariés à la loi ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux. Ceux qui sont mariés au monde ne pourront pas non plus rentrer dans le royaume des cieux. La seule solution, passer par cette fameuse porte étroite en suivant Jésus jusqu'à la croix, où la mort en nous-mêmes va rompre le lien de notre mariage à la loi ou de notre mariage au monde. L'apôtre Paul développe cette image en Romains chapitre 6 et chapitre 7. Si vous voulez regarder cela plus tard, vous pouvez. Comment faire avec tout cela et nous maintenant? Question qui se pose, est-ce que nous avons trouvé cette fameuse porte qui permet de passer de l'autre côté, qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu dont a parlé Jésus? Est-ce que nous avons trouvé la porte? Jésus dit qu'il était lui-même la porte. En Jean chapitre 10, « Je suis la porte », a-t-il déclaré. Et donc, il faut croire dans le Messie. Il faut croire en Jésus qui a complètement et parfaitement, lui et lui seul, accompli toute la loi. Il faut croire qu'il est mort sur la croix en prenant sur lui-même toutes nos fautes et nos péchés. Lui qui avait parfaitement accompli la loi, lui qui était absolument sans tâche, sans faute. Et il faut croire que Dieu l'a ressuscité des morts, que par son sang versé, nos péchés sont pardonnés et la porte du ciel est ouverte uniquement par l'œuvre de Jésus-Christ. La seule façon, rentrer, nous dit-il, par la porte étroite. Toutes les autres portes mènent à la perdition. Est-ce que nous avons trouvé cette porte? Est-ce que nous sommes au clair avec la radicalité de la vie de disciple? Je répète trois versets qui pèsent lourd dans ce passage, dans cet enseignement de Jésus. Luc chapitre 16. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un, ou aimera l'autre, ou s'attachera l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. Vous ne pouvez servir Dieu et chercher à vous enrichir. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Chercher à paraître devant nos semblables. C'est un grand mal qui nous touche et qui, moi, me touche. Cet orgueil que de vouloir paraître devant les gens, que de faire des choses pour avoir leur assentiment, leur reconnaissance, et pour pouvoir, devant les hommes, avoir leur approbation à eux, plutôt que l'approbation de Dieu. Luc 16, 17, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'un seul trait de la loi, l'être de la loi ne vienne à tomber. La moralité du royaume des cieux est, non seulement elle englobe les exigences de la loi de Moïse, mais elle va encore bien, bien au-delà. Est-ce que nous sommes au clair avec la radicalité de la vie de disciples? C'est l'image du fils prodigue, la parabole que j'ai donnée juste avant. Rentrer en nous-mêmes, faire un bilan. C'est difficile de faire des bilans. Les sociétés ont l'obligation légale de faire des bilans, faire l'état des stocks et publier un bilan comptable qui soit juste. Si elles n'étaient pas obligées de le faire, elles ne le feraient pas. Parce que c'est un travail et parce qu'on n'a pas envie de montrer les résultats. Mais c'est quelque chose qu'a fait le fils prodigue. Il a fait un bilan de sa vie. Lorsqu'il avait eu tout dépensé, il avait été pressé par les circonstances pour le faire. Les accidents de la vie ne sont pas souhaitables, mais ce sont des opportunités où Dieu nous invite à faire le bilan, à entrer en nous-mêmes et à exposer à Dieu notre vie. Il la connaît, d'autant il la connaît. C'est pas la peine de se cacher les choses à soi-même. La bonne nouvelle, c'est que le fils prodigue est revenu, et ça, c'est un tableau de Rembrandt. Nous ne vivons pas encore dans le paradis. Bien souvent, le péché reprend vie en nous, et bien souvent, on vit à côté de la plaque même. Un petit peu comme le second fils. On pense qu'il est là derrière le second fils, là dans l'ombre, ici. Rembrandt l'a représenté là. Le retour à Dieu est toujours possible et il nous accueille. Et Dieu, cette parabole nous apprend que Dieu attend toujours le retour. Il attend le retour du fils qui part. Il est revenu ici. Il entend le retour de celui du fils qui est blasé. On peut être facilement, tellement facilement des chrétiens blasés. Le royaume de Dieu ne nous rend plus enthousiastes comme il nous rendait enthousiastes avant. Ou bien on peut devenir cynique, voir que de toute façon, les frères et les sœurs, ils n'y arriveront jamais. On peut être également un fils avare, un fils qui aime l'argent. On peut être un fils incrédule. On peut être un fils jaloux. On peut être aussi un fils perdu. Mais le fils prodigue est embrassé par son père qui l'accueille. Et cette porte ouverte et ne se fermera jamais tant que le Seigneur ne sera pas revenu. Cette porte sera toujours là. Le pardon, revenir à Dieu, nous humilier devant Jésus-Christ et lui demander sa grâce. Et Dieu nous accordera sa grâce pour nous pardonner, pour nous restaurer, pour nous rétablir et nous faire à nouveau désirer cette vie radicale, cette vie qui nous bouleverse avec cet exemple de Jésus qui ne correspond à rien d'autre et avancer dans le royaume des cieux, marcher, découvrir ce royaume de Dieu auquel finalement tous les hommes soupirent quelque part après lui, mais ils ne veulent pas passer par la porte. Alors, je vais terminer, on va chanter le 535, ce qui m'était cher. Je vais prier. Seigneur, tu as fait ce tour de force de à la fois pouvoir apporter cette vie nouvelle et à la fois le royaume des cieux ne viole pas la loi, bien au contraire. Merci pour Jésus-Christ qui nous permet de rentrer dans ce royaume des cieux, d'avoir une parfaite droit, une parfaite citoyenneté uniquement à cause de lui, à cause de son sang qui a été versé sur la croix pour nous racheter, pour nous donner ce visa d'entrée, pour nous donner cette nationalité céleste. Merci pour la barrière de la loi. Merci parce qu'elle protège ton royaume de toutes les personnes qui seraient intruses. Merci pour cette perspective éternelle que tu as prévue et dont tes paraboles lèvent un petit peu de temps à autre le voile. Merci pour nous donner également de cette possibilité que tu nous as laissée que de parler de cette porte autour de nous, cette porte qui est ouverte, cette porte qui est étroite et qui mène au chemin de la vie, pour que beaucoup la trouvent. Seigneur, comme beaucoup nous ont conduits là, moi aussi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.